Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission qui vous parle de cinéma et qui vous fait écouter aujourd'hui eh bien, des réalisateurs. Il y en aura deux, Jonathan Glazer, celui qui a fait La Zone d'intérêt, et puis toi Sophia, tu as rencontré un réalisateur français.
Oui, j'ai rencontré Gilles Perret dans le cadre de la sortie de son dernier documentaire, La Ferme des Bertrands.
Nous parlerons donc du Grand Prix du jury à Cannes, La Zone d'intérêt, mais aussi de L'Homme d'argile et de L'Étoile filante du duo Abel et Gordon. Nous parlerons également de deux dessins animés alors bien différents, Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci et de Véchotte de Piano Player. Mais laissons de côté la légèreté avec The Zone of the Interest de Jonathan Glazer qui nous emmène en bordure du camp d'Auschwitz.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Il y a des comédiennes ou comédiens qui parviennent à viser juste. C'est le cas de l'Allemande Sandra Hüller, car lors du dernier Festival de Cannes, les deux films dans lesquels elle était présente ont remporté les deux prix les plus prestigieux. Femme d'un homme qui meurt dans Anatomie d'une chute, Palme d'or, et femme d'un bourreau à grande échelle dans La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui a remporté donc le grand prix du jury, le prix de consolation si on veut. Alors autant dire que sur la croisette, avant que le film de Justine Triet ne soit projeté, tout le monde pariait sur le long métrage qui traite de la Shoah en prenant un détour. Alors pas un très grand détour, car la zone d'intérêt du titre est celle qui jouxte le camp d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Un espace dans lequel se trouve la maison du commandant du camp, Rudolf Hoss, sa femme Hedwige et ses quatre enfants. Le film n'en finit pas de commencer sur un écran noir avec une musique vrombissante avant de s'ouvrir en toute clarté sur un pique-nique au bord d'une rivière. Alors on ne pense pas à la guerre, on ne pense pas à l'horreur. Pourtant, quelques séquences plus loin, il apparaît que la petite famille toute heureuse rentre dans une grande maison avec un beau jardin, une piscine, une serre, de belles plantes, mais que tout près, l'horreur se fait entendre. Cris, coups de feu, bruit des flammes qu'on attise, des trains qui arrivent ou partent, des chiens qui aboient. Les détails hors champ ne manquent pas durant tout le film. Alors ce qui est effrayant, c'est que cette famille vit comme si le bruit du camp de la mort était comme celui d'une route qui connaît ses heures de pointe. Une normalité qui, à nous spectateurs, eh bien, nous paraît effrayante. Mais après tout, le père de famille est le chef du camp d'Auschwitz. Un homme modèle qu'on voit recevoir des ingénieurs transformés en VRP, montrant comment la cadence du camp peut être améliorée en réalisant des modifications. Un homme que l'on voit dans l'exercice de son travail, mais sans jamais pour autant entrer dans le camp. Jonathan Glazer s'en tient à son schéma de départ, transmettre l'horreur de l'inhumanité au travers de cette famille. Le souhait donc du Britannique était que le spectateur s'identifie non pas avec les victimes, mais avec les bourreaux. Après tout, quand la mère et l'épouse enlèvent les mauvaises herbes, arrosent les plantes, reçoit ses amis pour prendre le thé et ne veut surtout pas partir de cette maison si bien entretenue, eh bien on pourrait adhérer. Mais quand elle essaie un manteau de fourrure un peu trop grand pour elle ou des bijoux venant du camp d'en face, quand elle menace une de ses servantes de l'envoyer en cendres, notre identification avec cette vie petite bourgeoise vacille. Adapté du roman de Martin Amis, La Zone d'intérêt est un film glaçant qui montre l'insignifiante banalité du quotidien dans une villa bordant la mort à grande échelle. Partant d'une position éthique forte de ne pas montrer la mort, Jonathan Glazer sait s'y prendre pour montrer le contre-champ de celle-ci, rendant l'horreur omniprésente. Alors on s'en écarte par quelques séquences de nuit prises en négative, montrant une jeune fille laissant des pommes sur le trajet des prisonniers comme s'il s'agissait d'un rêve vaguement cauchemardesque. La mise en scène accompagne l'ordre de cette maison grâce à plusieurs caméras qui filment en continuité les mouvements de la famille et des domestiques. Le film questionne en creux la banalité du mal, un concept qui vient de Hannah Arendt. Alors il est un moment clairement question de l'idéologie nazie, l'épouse refusant de suivre son mari qui est muté, considérant que cette maison est un espace vital qui a été conquis. Un autre personnage horrifié par le bruit la nuit, eh bien, lui choisit de quitter cette maison au premier abord impeccable. Voilà un grand film qui utilise des principes formels, simples et efficaces. Et nous écoutons Jonathan Glazer lors de la conférence de presse. C'était à Cannes en 2023.
Au fil du temps, les choses ont évolué. Elles sont passées de mon ressenti personnel lors de cette semaine de visite à Auschwitz et pour devenir ce que le film est devenu. Cette maison assez idyllique qui était juste à proximité du camp de concentration, eh bien, c'est cette maison qui a attiré mon attention et j'ai fait quelque chose, en fait, sur le mur qui séparait le camp de concentration de cette maison. Il y avait cette maison très agréable, juste derrière le mur du camp des victimes. C'est quelque chose que nous disons, on fait des compartiments dans notre esprit pour notre propre commodité. Et c'est cette division-là qui m'a intéressé. Puis ensuite, il y a eu énormément de recherches et de discussions avant même de commencer à écrire. J'espère que le film que nous avons réalisé réussira à toucher chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Le fait de montrer qu'il s'agit de personnes et non pas de monstres était très important. En fait, le crime absolu est que ce sont des êtres humains qui ont commis ces actes contre d'autres êtres humains. On ne devrait pas se comporter comme cela, mais je crois que rien n'est impossible.
Nous écoutions Jonathan Glazer, le réalisateur britannique de la zone d'intérêt, en salle depuis le 31 janvier. Roomba, en 2008, est l'un des films qui m'a fait le plus rire. Le duo Abel et Gordon est de retour avec l'étoile filante.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Je sais qui vous êtes.
Ils savent qui je suis.
Dominique Abel et Fiona Gordon, un duo de comédiens défini par un style qualifié de burlesque poétique, ont à leur actif 4 spectacles et quelques films co-réalisés par leur complice, Bruno Romy. Paris Pieds Nus marquait leur première réalisation indépendante sans le soutien de Romy. Cet hommage à peine déguisé au cinéma de Tati, avec en guest star Pierre Richard, reçut un accueil critique favorable. Leur nouveau long métrage, L'étoile filante, prolonge cette veine clownesque entre satire et tendresse, mais en investissant un genre a priori éloigné des préoccupations des artistes. La série noire imbibée, cette fois-ci d'un esprit excentrique influencé par l'univers de Aki Korismaki, avec néanmoins un ancrage social un peu moins marqué. Mais le réel rattrape leur vision du monde en prenant comme toile de fond le terrorisme qui a secoué en fait la Belgique à la fin des années 80. Donc Boris, barman dans un rad nommé l'étoile filante, vit dans la clandestinité depuis 30 ans suite à son implication dans un attentat. Un jour, un client rentre dans le bar, se présentant comme une des victimes du passé et tente d'assassiner Boris, mais rate son coup à cause d'un bras désarticulé. La rencontre avec le dépressif et solitaire Dom, son sosie, est le moyen parfait pour échapper à la vengeance. Mais Boris ignore l'existence de Fiona, détective privé, qui enquête sur la soudaine disparition de son ex-mari Dom.
Il a une ex-femme.
Quoi ?
Elle est détective privée.
Vous cherchez quoi ?
Mon mari. Dom, il est où ?
La structure empruntée au film noir peine à convaincre, parasitant le talent comique du duo et des autres comédiens. Lorsque le récit s'arrête, que les auteurs laissent libre cours à ce qu'ils savent faire, l'étoile filante captive impressionne par sa chorégraphie, la gestuelle des corps, l'inventivité des gags visuels et la beauté plastique des cadrages qui mettent en valeur un décor de théâtre. Par ailleurs, la danseuse chorégraphe japonaise Kaori Ito, aperçue dans Poesia sin fin de Jodorowsky, offre les plus belles séquences du film, des instants suspendus portés par un art unique de la chorégraphie et d'un burlesque quasi chaplinesque. Le duo belge, actif depuis le début des années 80, sont moins des cinéastes que des artistes protéiformes, plus à l'aise avec les corps en mouvement qu'avec les dialogues. Mais malgré les qualités esthétiques indéniables, la mise en scène manque de rythme et l'ensemble de chair. On suit les pérégrinations des personnages avec un œil amusé mais aussi une distance qui empêche une implication émotionnelle. L'étoile filante est un objet singulier, porté par une somme de talents impressionnants, mais ça reste un objet, une œuvre un peu désincarnée dans laquelle j'y ai éprouvé un ennui poli malgré tout le talent des auteurs.
Faites-vous votre avis, l'étoile filante est en salle depuis le 31 janvier. Fernando Trueba et Javier Mariscal reviennent sur la disparition d'un pianiste brésilien, ses véchottes de piano player.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
One day, a piano solo caught my attention. I came across a name unknown to me, Tenorio Jr.
Si le biopic, soit la version cinématographique d'une biographie, a le vent en poupe depuis quelques années, il y a aussi une autre manière de retranscrire le passé vécu par des personnalités plus ou moins connues qui s'est démocratisée sur nos grands écrans. Le film d'animation est en effet un format bien pratique parce qu'il permet non seulement d'apporter une licence poétique certaine, mais en plus, dans le cadre d'une reconstitution, il permet de visualiser tout ce qui est de l'ordre des moyens mis en place par les grosses productions. Voire même du fantasme, ce qui est le cas dans le film qui nous intéresse aujourd'hui.
I'd like to know more about him.
It was a golden age that lasted only 10 years.
They Shot the Piano Player met en scène un journaliste de musique new-yorkais qui découvre un jour la musique composée par un pianiste brésilien virtuose du nom de Francisco Tenorio Jr. qui officiait dans les années 60 et 70 et en tombe éperdument amoureux. Le problème, c'est que sa nouvelle obsession se heurte vite à un mur car le fameux prodige a disparu de la carte aussi vite qu'il est apparu sur certains albums. Il va devoir donc se plonger dans l'histoire de l'Amérique latine et plus précisément dans tous les tourments entourant la révolution d'Argentine, les troubles politiques du continent et les multiples disparitions accompagnant la répression politique terrible. Alors on s'en doute, très vite, le pianiste fait bien sûr partie de ces disparus et tout en remontant le plus précisément possible à la piste jusqu'à la nuit fatidique qui le vit s'évanouir dans la nuit, le journaliste va à la fois retracer la vie d'un pays, d'une époque et d'un milieu qui aura connu gloire et chute au son endiablé du jazz de la bossa nova, autant que ceux des coups de feu et des cris des torturés. Alors même si Fernando Trueba et Javier Mariscal, qui ont pourtant déjà signé le film d'animation Chico et Rita en 2011, se défendent d'avoir eu l'idée du dessin animé en premier pour They Shot the Piano Player, arguant qu'ils voulaient faire à la base un documentaire sur Tenorio Jr., la forme est tellement plus simple à manipuler pour eux qu'elle s'impose comme une évidence. La forme du documentaire est bien présente avec ses cadrages classiques d'interviews reconnaissables entre mille et, de ce fait, inscrit They Shot the Piano Player dans le registre du film d'investigation tout au autant que celui du film musical et politique. Sa ligne fictionnelle est à peine brisée par la dramaturgie mettant en scène ce journaliste musical, d'autant plus qu'il est doublé par Jeff Goldblum, l'acteur bien connu de La Mouche ou de Jurassic Park.
Si él hubiera vivido, la música brasileña hubiera sido diferente.
Si l'animation a beaucoup apporté à des films comme Joseph ou Valse avec Bachir, qui partagent de nombreux points communs avec ce film, la comparaison s'arrête là, car en termes d'esthétisme, They Shot the Piano Player a beaucoup de mal à rivaliser avec ses glorieux aînés. Alors si une poésie intense se dégageait immédiatement de ces deux titres précités, il en faudra franchement plus à Trueba et Mariscal pour convaincre. L'animation est le principal problème d'un film au fond intéressant, mais trop bavard et pas assez tourné vers la fiction pour véritablement porter l'adhésion. Pour qui aura vu nombre de thrillers politiques, la musique se déroule certes agréablement, mais sans aucun génie. Et pour qui cherchera un choc esthétique, il sera plutôt négatif car les choix ne sont pas très heureux. Si on loue la division de l'animation suivant les périodes et surtout les situations, alors séparant les événements en train d'être vécus par exemple et ceux issus de la mémoire parfois lointaine de l'intervenant, cela ne suffit pas à flatter la rétine. Le passé est littéralement plus sombre et flou, mais le présent n'est pas beaucoup plus saisissable. Le minimalisme qui englobe le traitement joue au final un peu contre lui et ferme les portes de l'évasion promise, car ce Francisco Tenorio Jr., idéalisé et pourtant sans aucun véritable relief, n'a pas le charisme du Charles Aznavour du film de Truffaut dont le titre fait explicitement référence. Reste bien évidemment la musique, elle seule garante d'un voyage sensoriel, mais c'est un petit peu maigre.
The Shot de Piano Player est en salle depuis le 31 janvier. 50 ans dans la vie d'une ferme en Haute-Savoie, nous parlons de la ferme des Bertrands. C'est l'interview de cette émission.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Gilles Perret signait déjà en 1999 un premier film documentaire dans lequel il s'était intéressé à ses voisins, agriculteurs, producteurs de lait dans le hameau du Quincy, en Haute-Savoie. Et c'est notamment le départ à la retraite de toute la fratrie qui était accompagné et filmé. Le résultat, Trois frères pour une vie, inaugurait une série de réalisations filmiques pour le réalisateur avec toujours à cœur la condition humaine et sociale des petites gens, des travailleurs et de la classe ouvrière. Pendant les 25 ans qui suivent ce premier film, Gilles Perret s'évertue en effet à filmer l'humain, en donnant du temps de parole et d'écran à des personnes qui sont souvent invisibilisées ou caricaturées par les médias. S'il faut parler d'un fil rouge, on pourrait dire que le cinéaste part toujours du local pour parler du global. En s'intéressant à des histoires personnelles, ce sont celles du collectif qui se dessinent, avec toujours la toile de fond des luttes sociales qui les animent et doivent, à ses yeux, continuer d'être menées pour un meilleur avenir. Des films qui se veulent positifs, avec humour et émotion, qui tendent à insuffler de l'espoir, mais sans être naïfs pour autant. Ça donne par exemple La Sociale, un film sur la sécu en 2016, ou encore avec François Ruffin, Je veux du soleil, Tour de France des ronds-points, occupé par les Gilets jaunes en 2019. Avec ce nouveau film, La ferme des Bertrands, c'est le retour du cinéaste dans son microcosme natal. Il s'agit d'un documentaire qui s'étend sur une très longue période, puisqu'il retrace 50 ans de la vie d'une ferme et sédimente plusieurs strates temporelles à l'écran. Trois périodes entremêlées, au montage, mais espacées de 25 ans. La première en 72 s'appuie sur les images captées par Marcel Tria, qui était venu filmer les trois frères Bertrand, André, Joseph et Jean, pour la télévision, alors que ceux-ci venaient d'investir dans une étable, à l'époque ultra-moderne, en stabulation libre de 82 laitières. Pour référence, il s'agissait d'un temps où l'agriculture traditionnelle, c'était les vaches à l'intérieur de la maison de famille. Les Bertrands s'illustraient donc déjà comme novateurs. La deuxième époque, 25 ans plus tard, correspond au premier film que Gilles Perret a dédié aux Bertrands, « Trois frères pour une vie », un moment de passation lorsque le neveu des frères reprend la ferme avec sa femme Hélène. Puis, dernière période, 25 ans après, la plus récente transmission de Hélène, veuve depuis 2012, à son fils Marc et un associé Alex. Comment ne pas relever la pertinence de la sortie en salle de ce film dans le climat actuel ? Le documentaire de Gilles Perret tombe à point nommé en cette période de fronde agricole. Car sans tomber dans le pathos mais avec beaucoup de sensibilité, il nous ouvre les portes d'une exploitation agricole d'envergure qui fonctionne, tout en nous révélant l'envers du décor de ce succès économique. Le prix payé par la première génération d'agriculteurs, surtout les trois frères, à savoir des sacrifices immenses réalisés, la pénibilité du labeur, l'abnégation de soi et des désirs de famille. On pourra y lire beaucoup de choses en filigrane sur ce qu'attendent et demandent les agriculteurs aujourd'hui en France. La vertu d'un protectionnisme national et européen avec les appellations AOC, AOP par exemple, qui garantissent un plus juste prix d'achat du lait. On y voit également comment les paysans ont naturellement le souci de la préservation du territoire et de la protection de l'environnement. Belle manière peut-être de contrecarrer la récupération du mouvement agricole par la FNSEA qui préfère défendre les intérêts de l'agro-industrie en s'attaquant aux normes environnementales. Écoutons plutôt Gilles Perret nous parler de ses convictions politiques et de son film, digne, actuel et bourré d'humilité, où le progrès n'est pas antinomique d'un travail à échelle humaine.
On est dans un petit village de Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici.
Et votre vie, c'est le travail tout le temps ?
Ah ben oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie.
Bah, ils ont réussi à monter cette ferme au prix d'un gros volume de travail et effectivement de ne pas avoir dépensé beaucoup d'argent à côté de la ferme. Tout a été investi dans la ferme, mais il faut dire aussi pourquoi ça marche. Moi déjà, je fais un film volontairement positif parce que j'ai l'habitude de faire des films qui se finissent plutôt bien et essayer de ne pas plomber complètement le spectateur à la fin. Et là, ça marche bien parce qu'on est dans la zone d'appellation d'origine protégée Reblochon. Donc en fait, si la ferme fonctionne bien et si ils continuent d'être heureux et fiers de ce qu'ils font et puis vivre dignement de leur travail, c'est parce que cette zone Reblochon leur permet de vendre leur lait deux fois plus cher que les producteurs de lait de plaine ou de Pologne ou de...
C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui vont prendre la relève.
On va déjà essayer de digérer cette reprise parce que ça te prend tes morceaux.
Et puis on y fait aussi parce que ça nous plaît, je pense. C'est la première des choses, c'est ça. Hein.
C'est sûr que quand on filme des gens qui sont en fin de carrière professionnelle, plutôt en fin de vie, qui sont trois hommes célibataires qui n'ont pas fondé de famille, forcément le constat ne peut pas être hyper réjouissant. Donc effectivement, la satisfaction qui leur reste, c'est justement de transmettre un outil de travail qui fonctionne bien et d'avoir réussi à laisser une nature en bon état, une nature propre, quoi. Donc le constat, il est sévère sur le plan humain, mais bon, pas que. Il y a quand même quelques raisons d'être un peu satisfait de leur passage sur Terre, on va dire. Donc effectivement, là, c'était l'occasion avec cette génération-là et avec cette agriculture qui fonctionne bien, de mettre une note un petit peu optimiste.
On prend toujours des conseils à gauche, à droite. On discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi.
C'est des tout bons. Bon, il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis. On peut pas tout y avoir.
En tout cas, la volonté, c'était de casser l'image comme quoi le progrès était forcément incompatible avec le respect de l'environnement et que le progrès se faisait forcément au détriment des êtres humains. Et c'est pour ça qu'il y a cette scène au début avec ces robots de traite où les Bertrand vont voir dans une ferme assez lointaine pour voir comment ça marche, pour savoir s'ils vont s'équiper ou pas. Et c'est assez provoquant au début. On se dit, on part dans un film de productivisme, oulala, on va s'éloigner du vivant, quelle catastrophe et tout. Puis finalement, plus l'histoire se déroule, plus on se rend compte que pour une fois, il semblerait que la robotisation allège vraiment les corps, allège la peine, allège les conditions de travail et leur permettre d'avoir une vie dans l'emploi du temps un peu plus conforme avec le reste de la société, notamment parce qu'ils ont des enfants. Donc vous me direz, on fera peut-être le bilan dans 10 ans, mais moi dans ces cas-là, je suis plutôt preneur.
La ferme, on l'a modernisée, mais le bâtiment, il n'est pas plus gros que quand ils étaient là.
Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique ou abandonner la profession, vous sauver.
Il y a le robot partout, maintenant dans les usines et tout, ce qui remplace des hommes, pourquoi pas qu'ils nous remplaceraient pour frères, hein.
Ça donnera peut-être plus de goût aux jeunes.
Je fais aussi des films sur des gens comme ça pour leur donner la parole, donner de la visibilité à ces gens qui sont souvent méprisés ou invisibilisés et de faire voir que ces gens qui ont tous les critères de la discrimination par l'image, c'est-à-dire que quelqu'un comme André avec ses moustaches et qui n'est pas forcément bien habillé, qui n'est jamais sorti de son village, si vous lui donnez 10 secondes dans un journal télévisé, vous allez dire c'est quel pauvre gars, il n'est jamais sorti de chez lui, il ne doit pas avoir grand-chose à nous raconter. Alors que quand on lui donne du temps, eh bien, on voit qu'il est largement plus intelligent que beaucoup de soi-disant experts qui squattent les plateaux de télé et qu'il a une pensée très structurée, qu'il a beaucoup de recul par rapport à sa vie et que sa pensée n'est pas uniquement cantonnée à des questions agricoles, mais elles vont bien au-delà de ça puisqu'on y parle de la notion du bonheur, de la notion de la transmission, on y parle de la vie en général. Donc voilà, j'aime bien faire des films où on donne la parole et rendre visibles les invisibles et leur donner du temps, et pour casser un petit peu aussi l'image caricaturale qu'on peut avoir du monde agricole et des hommes.
Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent. Il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre.
C'est vrai qu'on est là pour un petit moment. Après, ça sera des autres générations. On n'est pas là pour y abîmer.
C'était Gilles Perret au micro. Alors, non pas de Cinérama, parce que tu as eu un petit problème de son, Sophia.
Mais, absolument.
Mais on doit le son à Élodie Laurent.
Oui, et qu'on remercie.
Deux êtres que tout oppose se rencontrent, ce n'est pas nouveau. Nous parlons de L'Homme d'Argile, premier film d'Anaïs Tellen.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Où qu'elle se prend celle-là?
Chez les patrons, hein. Je te demande la main au début, puis tout le branché passe.
Imaginez un croisement improbable entre Hellboy, Jean-Marie Le Pen et Philippe Naon et vous aurez un petit aperçu du personnage central du premier long-métrage d'Anaïs Tellen, L'Homme d'Argile. Je plaisante, hein, mais j'ai immédiatement songé à ces figures imposantes, même si les références explicites sont le golem, le cyclope et évidemment la bête de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Alors donc Raphaël, hein, un homme robuste avec un seul œil, tout entier dévoué à la terre et à la musique traditionnelle, est le gardien d'un manoir semi-abandonné dans lequel plus personne n'habite. Il passe ses journées à chasser les taupes, jouer de la cornemuse et pratiquer des jeux sexuels innocents avec la postière. Garance, une artiste contemporaine, héritière du domaine, débarque à l'improviste par une nuit d'orage comme une présence fantomatique. Fascinée par le corps de Raphaël, elle le prend pour modèle afin de créer une sculpture d'argile le représentant.
C'est pas vous, vraiment, hein. C'est ce que vous m'inspirez. Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me promener. Vous êtes comme un paysage.
Sur le thème assez convenu de la rencontre entre deux êtres que tout oppose, le colosse rural et la bourgeoise citadine cultivée, Anaïs Tellen, qui est d'ailleurs la fille de Carl Zéro, emprunte la voie du conte pour aborder cette histoire ténue mais touchante. Très vite, le film dépasse son postulat de base, cette opposition stéréotypée entre les locaux qui regardent la télé et écoutent de la variété française et la classe supérieure, touchée par l'art moderne, entre art brut ou de brut et art contemporain. Alors ce qui intéresse la réalisatrice, c'est bien le personnage de Raphaël, filmé comme un homme véritable véritable objet de désir, de convoitise, inversant par ailleurs l'habituel rapport entre l'artiste et la muse. Il est la muse de Garance, hein, sous le charme magnétique de cet homme taiseux qui devient de plus en plus beau sous nos yeux grâce à la mise en scène subtile et délicate de la cinéaste qui pose un regard féminin et non féministe, hein, sur son sujet traité avec beaucoup d'originalité. Hors du temps et inscrit géographiquement dans un territoire nourri par les fables, hein, la beauté de l'homme fragile tient à sa forme entre maniérisme sophistiqué, notamment en ce qui concerne l'extrême précision des cadres, et naturalisme brut, rappelant le cinéma de Alain Guiraudy, auquel Anaïs Télène lui a emprunté l'acteur de Rester Vertical, l'impressionnant Raphaël Thierry. Face à lui, Emmanuel Devos s'incompose un personnage mystérieux d'artiste dépressive et mélancolique. Deux séquences magnifiques justifient à elles seules de se déplacer pour voir ce film singulier. La première, lorsque Raphaël, recouvert d'argile, étreint Garance pour une nuit d'amour suspendue du temps. Et la deuxième, l'épilogue, qui est un splendide plan séquence qui se clôt sur l'image de l'œuvre achevée. Cet homme d'argile, création aussi pour la sculptrice que pour la réalisatrice, qui signe sans doute un des plus beau portrait d'homme qui nous était donné de voir depuis longtemps.
L'homme d'argile est en salle depuis le 24 janvier. On en apprend davantage, enfin surtout les enfants, hein, sur Léonard de Vinci grâce à un dessin animé sur le peintre et l'inventeur italien.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci.
Étonnant mariage, hein, qui est la relation entre Pierre-Luc Grangeon et Jim Capobianco, car si le nom du premier, le français, est plutôt confidentiel, ayant œuvré jusque-là dans de l'animation principalement en format court-métrage, ben celui du second, l'américain, est bien plus connu du grand public, du moins ce dans quoi il a travaillé. Capobianco a co-scénarisé Le Roi Lion, Le Bossu de Notre-Dame, Fantasia 2000 hein, et Ratatouille pour Disney Pixar, et il a également travaillé sur les passages animés du Retour de Mary Poppins. Deux noms expérimentés hein, qui vont s'intéresser cette fois-ci à la figure de Léonard de Vinci et plus précisément à ses dernières années passées en France. L'artiste florentin ayant remis en question le rôle créateur de Dieu avec ses recherches, études et créations révolutionnaires, bah, il va rejoindre l'entourage de François Ier et continuer à donner ses lettres de noblesse à la Renaissance, à la sueur de son front et surtout à l'écoulement de sa malice propice à l'élévation des esprits et des âmes.
Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air.
N'oubliez pas d'ériger ma statue.
Du point de vue technique, hein, Léo est une splendeur de tous les instants. On est plongé dans un univers raffiné et délicat qui enthousiasme la rétine du début à la fin. Les amoureux de la stop motion auront une nouvelle preuve de la poésie qui s'en dégage et que cette pratique, pourtant vue comme dépassée après l'avènement hein, des images de synthèse, bah, est en fait totalement intemporelle. Et c'est pour ça hein, que c'est un choix parfait pour un film comme celui-ci, alors même s'il y a aussi beaucoup d'animations traditionnelles, car il est très loin d'être sûr que Léo aurait pu être aussi captivant et enchantant sans cette conception toute particulière. L'image de synthèse, même de très haute qualité, comme on sait la faire aujourd'hui, ben, n'aurait pas pu entretenir ce lien physique entre fantaisie de l'esprit, création qui naît sous le crâne en feu d'un génie, et sa retranscription non seulement aux autres personnages du film, mais aussi aux spectateurs. Alors, à la limite du croquis, les traits sont une évidente déclaration d'amour à Léonard de Vinci, son travail et son héritage capital.
Vous êtes un tel génie.
Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie.
Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France.
Quelque peu phagocyté par son didactisme et un manque de ciblage général, Léo ne captive pas non plus, malheureusement, totalement, hein, car il manque parfois de cette fantaisie dans son fond qu'il sait si bien utiliser dans sa forme, de sorte à ce que l'on pense parfois à assister à une redite de l'exceptionnelle série animée Il était une fois l'homme d'Albert Barillet, la surprise et le ton adulte en moins. Mais à l'heure où l'école est en crise et la tête des écoliers n'a jamais été aussi vide, ben on ne va sûrement pas se plaindre d'une volonté de les éduquer d'une façon aussi charmante, quitte à souligner quelque peu la leçon et ainsi trahir l'origine de son public principal, les plus jeunes, à qui ça fera de toute façon plus de bien d'assister à l'une des projections en salle que celle des derniers DreamWorks ou, bah Disney ou Pixar, qui eux ont renoncé depuis longtemps à une quelconque forme d'élevation par la qualité.
Oup, attention, ce n'est que l'avis de Guillaume sur Pixar et Disney, ça n'est pas forcément partagé par toute l'équipe de Cinérama. En tout cas, nous parlions de Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, un film d'animation à partir de 7 ans, en salle depuis le 31 janvier.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, nous parlerons alors course automobile, en tout cas rallye, et puis nous parlerons du dernier film de Quentin Dupieux, Dali. À la semaine prochaine.